Alors, j'ai choisi de me concentrer sur des motifs récurrents dans les œuvres de Claude Chabrol, à savoir la constitution de faux et les usages de faux. Chez ce cinéaste qui s'intéresse aux mensonges, à la manipulation et aux apparences, l'usage de faux est au cœur de plusieurs intrigues, comme on va le voir. Je propose de voir comment, via l'emploi des faux en écriture, la mise en scène de Chabrol rend l'écrit porteur d'un dangereux pouvoir, souvent destructeur, tout en menaçant tout écrit par le faux. Tout écrit peut devenir faux, même celui exprimant des sentiments sincères. Je propose aussi de voir comment des personnages adeptes de l'usage de faux se trouvent pris au piège de cette pratique perverse. Et enfin, ça sera mon dernier point, j'essaierai de voir comment, à travers ce jeu, J-E-U, une notion qui me paraît être primordiale dans le cinéma de Chabrol, le cinéaste met en avant le décalage entre ce que les personnages écrivent, livrant leurs intentions et leurs projets sur le papier, et leurs actions et pulsions insondables, impossibles à retranscrire et inexplicables. Alors, dans les films de Chabrol, on voit régulièrement des personnages rédiger de faux documents, imiter ou créer de fausses signatures pour obtenir de l'argent ou pour commettre un crime. Dans Rien ne va plus, par exemple, Betty et Victor, deux habiles faussaires, escroquent des personnes en imitant leurs signatures sur des chèques qu'ils leur ont subtilisés. Dans Violette Nozière, Violette rédige une fausse ordonnance médicale dans le but d'empoisonner ses parents. On la voit à deux reprises, sous forme de flashback, essayer d'adopter une écriture adéquate. Dans Landru, film sur lequel je vais m'arrêter assez longuement, l'usage de faux est au cœur de l'intrigue et directement associé au meurtre perpétué par le fameux Henri Désiré Landru à l'encontre de femmes dont il veut obtenir de l'argent. Ce personnage multiplie les faux. Il écrit des petites annonces dans lesquelles il se fait passer pour un célibataire ou un veuf qui cherche à refaire sa vie. Puis, une fois qu'il les a séduits, il leur propose le mariage. Voilà, il les a rencontrés, il leur propose le mariage. Et avant de les tuer dans sa maison de campagne de Gambé, il leur fait signer une procuration lui donnant accès à leur argent placé sur un compte en banque. Alors, même si les femmes signent de plein gré les procurations, elles le font au bénéfice d'un certain monsieur Petit, monsieur Frémier, monsieur Cuchet ou monsieur Dupont. Alors, je vais vous montrer justement une séquence durant laquelle on voit comment Landru, alias monsieur Petit, donc il se fait passer pour monsieur Petit, parvient grâce à l'usage de faux à obtenir de l'argent, l'argent en l'occurrence de la pauvre madame Éon, interprétée par Daniel Darieux. Et comme vous allez le voir dans cette séquence, dans les différentes scènes, j'ai découpé, vous allez voir, il y a un petit saut au milieu, j'en suis désolée. Vous allez voir à quel point la présence de l'écrit ponctue chaque scène, en fait. Et qu'il va y avoir deux types d'écrits, des faux et un vrai, dont je vous reparlerai après.
Mon Dieu, à force de regarder le paysage, je l'ai tout aplati.
Ça vous change.
Pardon ?
Cela vous va bien, ma chérie ? Après notre mariage, vous ne vous soucierez plus de votre nez. Je parie.
Pourquoi ?
On dit que les femmes, une fois mariées, sont bien moins coquettes.
Vous ne me verrez jamais négligée.
Je sais. Je sais. Excusez-moi, je dois finir ces comptes.
Bien exigu, mon chéri.
Qu'est-ce que vous dites ?
Je disais que cette cuisinière est bien exiguë, mon chéri.
C'est justement ce que je me disais. Tenez. Signez ça.
Thank you.
J'ai une procuration de Madame Héon. Elle désire retirer ses titres.
Excusez. Madame Héon n'est plus contente de nos services.
Si, si. Mais Madame Héon est gravement malade. Pour des raisons pénibles, elle m'a envoyé à sa place. Alors, on est content de me revoir?
Oui, papa.
Oui, oui, oui.
Voilà la distribution. Ma chère Catherine, pour ton ménage. Ma chère Catherine, pour tes fantaisies. Mon cher Maurice, pour tes frais d'hiver.
Merci, papa.
Mon cher Charles, idem.
Merci.
Ma chère Suzanne, ma chère Marie, pour vos babioles.
Merci, papa.
N'ai oublié personne. Si, notre fidèle camériste. Je m'en occuperai plus tard.
Inutile que j'insiste sur la nécessité d'être économe. Les temps sont durs, vous le savez. Il n'y qu'à lire les journaux. On ne peut imaginer ce que doit faire un honnête homme aujourd'hui pour gagner sa vie.
Alors, ici, toute la mécanique meurtrière mise en place par Landreux repose sur l'usage de faux et plus généralement sur l'utilisation de l'écrit. Alors en fait, ici, dans cette séquence, ce que l'on voit tout d'abord, ce sont les conséquences des petites annonces rédigées par Landreux. Le moment où Madame Héon signe la procuration est aussi présenté comme un moment de basculement, un point de non-retour pour ce personnage qui tourne en rond. Le plan circulaire qui suit la signature, plan très insolite et inattendu à ce moment-là du film, fait l'effet d'une rupture dans la mise en scène. Madame Héon est prise dans une sorte de tourbillon auquel on peut donner deux significations complémentaires. Il évoque tout d'abord le vertige amoureux éprouvé par cette femme, vertige auquel est associé un air d'opéra qu'elle a entendu quelques jours plus tôt à l'opéra avec Landreux, lorsqu'elle était avec Landreux. Mais à travers ce plan circulaire s'exprime aussi et surtout l'idée de spirale infernale. Alors, je pense évidemment à la spirale aussi chez Fritz Lang, hein, c'est pour ça que j'utilise ce terme. Donc on peut penser à l'idée de spirale infernale dans laquelle elle vient de tomber. En signant, la femme donne une preuve d'amour tout en marquant elle-même, sans le savoir, son propre arrêt de mort que Chabrol représente très clairement par un arrêt sur image qui conclut la scène. Donc à la suite de cette violence du meurtre suggéré par la fumée noire qui s'échappe de la cheminée et de la cuisinière, succède une autre violence, un peu moins directe, mettant encore une fois en jeu l'usage de faux. Lorsque Landreux passe à la caisse de la banque pour vider le compte, il signe de son faux nom, ce qui constitue la dernière étape de l'usage de faux de ce criminel. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que la mise en scène n'insiste pas tant sur la fausse signature, que l'on voit à peine d'ailleurs, on ne voit pas vraiment avec quel nom il signe hein, finalement. Ça a l'air d'être même un nom un peu plus long que Monsieur Petit, on ne sait pas trop comment il signe. Ce qui m'intéresse ici, c'est que la mise en scène donc insiste sur l'échange de papier qu'induit justement le fait de signer. D'ailleurs, on le voit très bien avec ce gros plan hein, où vous avez les différents papiers qui sont superposés, donc la procuration, enfin la signature qu'il doit apposer pour avoir les documents et les billets. Finalement, on assiste à un échange de papiers. Landreux joue avec le troc d'une écriture contre une autre, troc qui ne repose que sur le crédit que l'on accorde à l'écrit. À travers l'usage de faux et l'échange de papier, Chabrol rend plus horrible encore les meurtres avec l'idée que ceux-ci sont finalement commis pour du papier, pour des billets que Landreux distribue ensuite comme des bonbons ou des bons points à sa femme et à ses enfants. Le mensonge et l'horreur, en plus, se répand à travers cet argent distribué par Landreux. Donc là aussi, hein, c'est très languien pour le coup. En pratiquant l'usage de faux, ce personnage manipule les mots et par là même s'octroie un certain pouvoir. L'écrit est montré comme dangereux dans cette séquence, à la fois parce qu'il est manipulé Et surtout, il me semble, parce qu'il n'est à aucun moment remis en question. Les guichiers ne semblent pas s'interroger sur la présence de cet homme venu récupérer l'argent. Ils semblent plus inquiets de perdre une cliente. Et donc, on pourrait dire que finalement, les crimes de Landru reposent aussi sur le jeu avec la croyance en l'écriture. C'est-à-dire qu'ici, on écrit, on signe et on ne remet pas en question. C'est ça aussi qui est dangereux, quelque part. Donc l'écrit est signe de danger chez Chabrol. Lorsqu'il est falsifié, il peut conduire au crime, comme ici, ou dans Violette Nozière aussi, qui empoisonne ses parents en rédigeant de fausses ordonnances. Même lorsqu'il n'est pas faux, il est dangereux car il peut constituer une preuve, être un indice dans une enquête par exemple, ou encore faire l'objet, on l'a vu tout à l'heure, d'une dénonciation comme à la fin des noces rouges par exemple. Dans cette séquence de Landru est présent un autre écrit, qui n'est pas faux pour le coup, mais vous allez voir que justement parfois la limite entre vrai et faux est assez ténue. Donc ici, on a aussi la présence d'un autre écrit qui pourrait passer totalement inaperçu et qui a pourtant un rôle très important dans l'affaire Landru et dans le film. Au début de la séquence, dans le train, le faux fiancé prête peu attention à Madame Éon parce qu'il note ses comptes sur un petit carnet. On peut penser à juste titre qu'il fait des estimations sur la petite fortune qu'il va amasser et qu'il va distribuer ensuite. Mais si on connaît un petit peu l'affaire Landru, on sait aussi que ces petits carnets dans lesquels le criminel marquait toutes ses dépenses, lors de son procès, ont constitué l'une des preuves de sa culpabilité. C'est en effet parce qu'il notait qu'il payait deux allées pour aller à sa maison de Gambé, où il commettait les meurtres, et un seul retour, un retour seulement pour lui, que la police a su que les femmes ne revenaient pas de ce voyage vers Gambé. L'allée simple de ces 11 femmes, il en a tué 11 tout de même, systématiquement notifiée, s'est avérée constituer leur dernière trace de vie avant leur disparition. Et donc lorsque Chabrol filme Landru tenir scrupuleusement ses comptes au début et à la fin de la séquence, il insiste avec ironie sur un acte d'écriture qui, associé en plus aux fausses procurations, va perdre le personnage. Donc qu'il soit vrai ou faux, l'écrit chez Chabrol a un immense pouvoir, en grande partie parce qu'il est dangereux, parce qu'il laisse une trace qui sera interprétée bien ou mal par tel ou tel lecteur. Ici, l'écrit détient un pouvoir de vie ou de mort sur les femmes, mais aussi sur Landru, paradoxalement. En fait, c'est un peu complémentaire dans cette séquence. Chabrol confère un pouvoir incommensurable, souvent destructeur aux mots, particulièrement lorsqu'ils sont faux. N'oublions pas qu'il est un admirateur de Georges Simenon qui, dans un roman mettant en scène Maigret, donne un pouvoir aussi aux mots, un pouvoir de mort. En effet, dans l'affaire Saint-Fiacre, roman paru en 1932, la mort de la comtesse de Saint-Fiacre a lieu durant la messe lorsqu'elle découvre dans son missel un faux article de journal annonçant la mort de son fils. En fait, c'est totalement faux, son fils n'est pas mort. Et cette nouvelle provoque chez la vieille femme une crise cardiaque qui lui est fatale. Donc là aussi, vous avez vraiment le pouvoir destructeur des mots. Donc la limite entre vrai et faux, dès qu'il s'agit d'écriture, est très floue chez Chabrol. Les deux peuvent se confondre, se compléter, en fonction des situations et des crédits que le lecteur apporte aux mots et à leur auteur. Il suffit de peu de choses pour qu'un écrit devienne faux et perturbe totalement aussi son auteur, qui pensait pourtant détenir justement un pouvoir grâce aux mots, parce qu'il les manipulait comme il le voulait. C'est tout le drame du Chapelier dans Les fantômes du Chapelier, adaptation justement d'un roman de Georges Simenon. Bourgeois respecté de Concarneau, Léon Labbé, qui a tué sa femme handicapée, fait croire à son entourage qu'elle est encore vivante. Il utilise notamment une sorte de mannequin, un petit peu comme Norman Bates dans Psychose d'Hitchcock. On est dans un film assez hitchcockien. Et donc, afin, soi-disant, de cacher ce crime initial, Léon Labbé étrangle une à une les amies de sa défunte épouse, qui ont pour habitude de venir rendre visite à cette dernière le jour de son anniversaire. Donc voilà, il ne veut pas qu'on découvre le jour de la date anniversaire eh bien que sa femme, finalement, a disparu et, en fait, est morte. Mais l'étrangleur, comme on le surnomme, ne se contente pas de tuer. Pour parler des crimes qu'il projette de commettre, il envoie régulièrement des lettres au quotidien L'Écho de l'Atlantique, lettres qu'il confectionne en découpant des morceaux de ce même journal local. Il manipule en plus les mots du même journal auquel il envoie les lettres. Comme Landru, Léon Labbé manipule et joue, ici au sens propre, avec les mots et avec les lettres. Il crée aussi une sorte de faux, tout d'abord parce que la lettre n'est ni rédigée avec sa propre écriture, ni signée de son nom, et surtout, comme on va le voir, parce qu'il affirme en fait des vérités qui vont se révéler être fausses. fait, dans ses lettres. C'est-à-dire ce qu'il écrit dans ses lettres, petit à petit, en fait, on va se rendre compte que c'est faux. Les raisons qu'il donne potentiellement pour justifier ses crimes, finalement, vont devenir fausses, parce qu'il va libérer des pulsions qui, justement, vont les contredire. Au début du film, donc, il annonce, dans cette lettre, justement, qu'il commettra le dernier meurtre, le 7e, le lundi suivant. La police et un jeune journaliste de l'Écho de l'Atlantique, le prennent au mot, excusez-moi du jeu de mots, mais c'est vraiment le cas, attendent de voir ce qui va se passer justement le fameux lundi, et ils mettent aussi en place des mesures de sécurité. Mais le meurtre n'a pas lieu comme prévu ce lundi. Léon Labbé découvre en effet que la femme qu'il devait tuer est morte récemment, donc il ne peut pas commettre de meurtre. Le personnage, dont l'esprit est déjà passablement dérangé, est alors de plus en plus perturbé. Non seulement il n'a pas pu mettre le crime à exécution, et selon lui, achever sa mission, mais il entend, au café où il se rend tous les soirs pour jouer aux cartes avec ses amis, il entend le jeune journaliste de l'Écho traiter l'étrangleur de fou. Le jeune homme ajoute que ce fou ne s'arrêtera jamais, quoi qu'il ait pu écrire auparavant. Et donc le journaliste, à un moment, déclare, je le cite, « On n'est pas obligé de croire ce qu'il écrit. La preuve, c'est qu'il n'a pas tué hier. » On accuse donc l'étrangleur d'avoir menti, et le chapelier se trouve être désormais l'auteur d'un faux, cette lettre-là qu'il avait envoyée. En réaction aux propos du journaliste, et parce qu'il refuse d'admettre qu'il a toujours des pulsions meurtrières, cette fois-ci dirigées contre sa pauvre bonne, Léon Labbé écrit une lettre de sa propre main, cette fois-ci. Il n'utilise pas des petites lettres du journal. Et donc je vais vous montrer justement la scène durant laquelle il essaye de rédiger une lettre en écrivant lui-même.
Jeune homme, peu importe... Ah,
j'ai un mauvais format, désolé, excusez-moi. Bah oui, du coup, ça me l'a...
Ah, voilà. Ce qu'on dira, ce qu'on pensera, j'ai pris et je continue à prendre toutes mes responsabilités. J'ai choisi délibérément, toujours. J'ai choisi délibérément, toujours. Je continue et je continuerai à choisir. Certains prétendront que j'ai voulu me rendre libre, hein ? Saleté ! C'est idiot ! Prétendront que j'ai voulu me rendre libre. C'est idiot. Je jure ! Je jure que je n'ai pris aucun plaisir.
Vous connaissez donc bien les gens, non ? Qu'est-ce que vous avez à vous promener toute la nuit comme une bête ? Je le fasse. Faut surtout pas que je le fasse.
Alors, ce qui est frappant dans cette scène est le fait que le personnage utilise la lettre comme une caution de vérité pour affirmer qu'il n'a pas menti et manqué à ses devoirs. Pourtant, à travers le jeu de Michel Serrault, qui interprète le chapelier, personnage donc qui tourne littéralement en rond dans sa chambre et fait les 100 pas, et à travers son écriture appuyant, grossissant et soulignant des termes précis, se révèle un grand malaise. C'est lui-même qu'il tente de convaincre, par l'écrit, que ses crimes suivent une logique, alors que ses pulsions, par définition déraisonnables, dépourvues de logique, se réveillent. Finalement, à partir du moment où il ouvre la porte pour aller, on s'en doute, tuer la bonne, hein, c'est elle qui l'interpelle hein, derrière la porte. Donc finalement, à partir de ce moment-là, la lettre et les affirmations qu'elle contient deviennent fausses, tout comme les lettres qu'il avait envoyées auparavant au journal. Finalement, on pourrait dire que toutes les lettres exposent un prétexte, une nécessité de tuer qui s'avère fausse. Le décalage entre l'écrit et les actions et pulsions de l'abbé devient trop grand dans cette scène. C'est d'ailleurs certainement la raison pour laquelle il n'enverra jamais cette dernière lettre que l'on perd de vue définitivement à la fin de la scène. Elle est pourtant centrale au début. On commence sur la lettre. Vous avez un mouvement de caméra vraiment qui insiste hein, sur la présence de cette lettre dans la scène. On commence sur la rédaction de la lettre. Puis vous avez un zoom arrière qui est effectué, mais où on garde toujours la lettre, si vous voulez, présente dans le champ. Et le personnage va tourner, mais en fait, on la voit toujours. En plus, c'est l'une des rares taches blanches qui est visible dans ce plan. En tout cas, c'est éclairé, en plus, très éclairé, très visible. Et finalement, on opère petit à petit. On arrive jusqu'au grossissement, hein, justement, où on voit vraiment l'écriture qui est appuyée. Et après, on perd complètement de vue la lettre. C'est-à-dire qu'on est allé au plus près. Et une fois qu'il a souligné, on ne verra plus de lettre. Ça sera fini. Mais même dans le film, hein, on ne verra plus d'écrit. Ce sera vraiment la dernière fois qu'on verra de l'écrit. On se recentre petit à petit sur le personnage. Donc on quitte complètement la lettre. On reste sur des plans de plus en plus rapprochés sur le personnage. On quitte le plan d'ensemble. Et donc c'est une manière de montrer que le film, petit à petit, va quitter cette idée de faux via l'écrit et se concentrer sur les pulsions du personnage, pulsions dont on n'aura pas vraiment la clé, en plus, jusqu'à la fin du film. Donc cette scène montre un autre moment de basculement où l'on quitte l'écrit, le jeu et la manipulation qu'il peut induire pour se concentrer sur l'angoisse et la folie grandissante du protagoniste. À mon sens, ce que filme ici Chabrol est la distance et le décalage qui existe entre les pulsions et les mots, entre les motivations et les intentions d'un personnage, donc des éléments inaccessibles, et ce qu'il écrit, ce qui laisse une trace, ce qui est visible. Ces décalages, ces ruptures entre l'écrit et l'action, donnant un aperçu des pulsions, sont représentés, il me semble, par des changements de plan et d'échelle de plan assez abruptes dans cette scène, ainsi que par un resserrement sur le personnage. Comme dans la scène de Landru, où l'on voyait Daniel Darieux, Madame Éon, prise dans une spirale infernale, on retrouve aussi ici l'idée du cercle, à travers ce personnage qui tourne en rond, lui aussi. Finalement, alors c'est peut-être une interprétation un petit peu poussée, mais il me semble que Léon Labbé est presque une synthèse, on pourrait dire, une réunion entre Landru et Madame Éon. Il est lui-même pris dans sa propre spirale infernale, dans un vertige, un cercle vicieux dont le contrôle commence à lui échapper. Il est devenu victime de sa propre lettre anonyme, qui s'est avérée fausse malgré lui, et il ne parvient plus à écrire. Après cette scène, donc, le chapelier n'écrira plus jusqu'à la fin du film et on quitte l'écrit. Il se trouve incapable d'écrire, comme Violette Nozière, à la fin de Violette Nozière, justement, on voit la jeune femme qui ne parvient pas dans sa cellule de prison à écrire à son ancien amant. Et là aussi, hein, dans Violette Nozière, on retrouve un petit peu la même chose, on quitte l'écrit. À partir du moment où elle a utilisé une fausse ordonnance pour essayer de tuer ses parents, elle n'arrivera plus à écrire. La seule trace d'écrit qu'on retrouve dans Violette Nozière, ce sont les journaux. Et encore même là, on n'aura jamais vraiment de plan sur les journaux. Mais l'écrit, on ne l'a plus. À partir du moment où le crime et où les intentions des personnages deviennent floues, il n'y a plus vraiment d'écrit. La maîtrise de l'écrit échappe donc à ces personnages, ce qui sera aussi le cas pour Landru, d'une autre manière, mais l'écrit l'amène à se perdre. Les personnages qui ont recours au faux en écriture, pratique qui constitue une grande maîtrise de l'écrit, et révèlent une volonté de dominer par les mots, se retrouvent bien souvent pris à leur propre piège. Et cela en grande partie parce qu'ils se laissent prendre à un jeu dangereux qu'ils ont créé, mais dont ils perdent le contrôle. Il me semble que la notion de faux et usage de faux est indissociable de celle de jeu, justement, notion qui est primordiale dans le cinéma de Chabrol. La plupart des films de ce cinéaste montrent des personnages qui détournent les règles, qui joue aussi à être quelqu'un d'autre. Cette notion dépasse même les situations et les personnages et vient se loger dans les dialogues truffés de jeux de mots. La mise en scène elle-même semble être parfois conçue par Chabrol comme un jeu. Il n'y a qu'à regarder par exemple ces petits documentaires ou ces films dans lesquels on voit Chabrol parler de son cinéma et surtout analyser des séquences de ses propres films. L'un des adjectifs qu'il utilise le plus régulièrement est l'adjectif « amusant », justement, pour parler même parfois de scènes qui montrent des choses très très graves. Il dit par moment « ah, ça c'est très amusant » quand à un moment on voit le couteau en gros plan, en insert. Il utilise ce terme-là. C'est un jeu aussi, si vous voulez. Pour lui, la mise en scène est un petit peu un jeu aussi. Les personnages chabroliens jouent aussi, créent des intrigues, le plus souvent en jouant le faux, en mentant, en trompant, en tentant de perturber et de donner de fausses pistes à leurs spectateurs. En effet, il me semble que ces personnages-là, en plus, se mettent en scène complètement. Hein, ils ont des spectateurs. Ainsi, les amis et les clients du bistrot où se rend le chapelier, Monsieur l'abbé, sont des spectateurs de son double, l'étrangleur. Et Léon l'abbé prend plaisir à jouer sur le double sens des mots qu'il utilise lorsqu'il parle. Voilà, lorsque on découvre la lettre qui a été envoyée au journal qui dit « Il y aura un crime lundi prochain », vous avez Monsieur l'abbé, à un moment, qui quitte le café et puis qui dit « Bon, bah, à lundi !» Avec un gros sous-entendu, évidemment, si vous voulez. Voilà. Lundi, il s'adresse à la fois aux journalistes et l'étrangleur. Et, enfin bon, voilà, vous avez compris. Donc il joue littéralement sur les mots. Il en est de même pour Landru, personnage sans cesse en représentation, comme le souligne par ailleurs la mise en scène se référant au décor factice de l'opérette et du théâtre de boulevard. Le faux et usage de faux trouvent une place de prédilection dans une mise en scène où la notion de jeu s'avère primordiale. Ces pratiques, donc le faux et usage de faux, font partie d'un jeu dangereux auquel s'adonnent les personnages jusqu'à s'y perdre. C'est dans Que la bête meurt que l'entremêlement entre le faux, l'usage de faux et le jeu est, il me semble, poussé à son paroxysme. Dans ce film, donc, dont nous avons parlé un petit peu tout à l'heure, nous suivons Charles, personnage profondément meurtri, qui veut retrouver et assassiner le chauffard qui a tué son petit garçon au début du film. À sa sortie de l'hôpital, au début du film, Charles écrit à l'encre rouge sur un petit carnet noir son projet de meurtre. Il décrit aussi dans ce journal toutes les étapes de son enquête pour retrouver l'homme qui a tué son fils. Pour mener l'enquête, Charles emprunte un faux nom, déjà, Marc Andrieux, pseudonyme qu'il utilise pour signer ses propres livres pour enfants, car Charles est écrivain, ce qui est important évidemment. Afin d'approcher le chauffard, l'horrible Paul, joué par Jean-Yann, Charles séduit la belle-sœur de ce dernier, Hélène. Paul mettra la main sur le fameux journal dont il fera en sorte qu'il soit retrouvé au cas où il lui arriverait quelque chose. À la fin du film, lorsque Paul est retrouvé mort suite à un empoisonnement à la mort au rat, un commissaire de police, interprété par Maurice Pialat, interroge Charles et lui parle de son journal, donc il l'a retrouvé. Charles parvient à convaincre son interlocuteur pendant un moment que son journal constitue une preuve accablante trop évidente pour faire de lui l'assassin. Il dit qu'il serait trop idiot, sachant que la police allait avoir connaissance de ce journal, de, je le cite, « se jeter dans la gueule du loup ». Mais, dans une scène suivante, une fois au poste de police, le commissaire lui fait part d'une autre hypothèse. Et donc, je vais vous montrer justement quelle est l'hypothèse du commissaire.
Espèce de vache. En deux lettres. Yo. Yo. Oui, yo. Hippo.
Veuillez me suivre, monsieur Tenier. Prenez place. J'ai interrogé soigneusement tout le monde et je suis arrivé à certaines conclusions. En effet, monsieur Tenier, il faudra être le dernier des abrutis pour commettre un meurtre quand tout vous accuse. Or, vous êtes le contraire d'un imbécile.
Merci.
Un homme, dans votre cas, ne peut donc avoir tué Paul de Cour. À moins qu'il joue les imbéciles, ce qui serait l'astuce suprême, n'est-ce pas?
Ah, je vous écoute.
Supposons que vous décidiez d'éveiller exprès les soupçons de Paul de Cour. Vous excitez sa curiosité, vous vous arrangez pour qu'il découvre votre journal. Vous l'incitez par là à prendre des précautions, et ce seront ces précautions mêmes qu'ils perdront. Il sera persuadé que les charges qui pèseront sur vous vous empêcheront de le tuer. Or, le raisonnement est faux, c'est le contraire qui se produit.
Oui, mais ce n'est qu'une supposition.
Oui, mais laissez-moi poursuivre. Si l'on considère votre journal comme une confession que vous vous adressez à vous-même, vous avez parfaitement raison. Il vous met en dernier sur la liste des suspects. Mais renversons le problème. Supposons qu'il soit l'élément essentiel, l'élément moteur de votre projet. Qu'en pensez-vous ?
Rien. Je vous écoute.
Monsieur Tenier, je crois que votre journal n'a été écrit que pour être découvert. Il l'a été. Et il ne restait plus d'obstacle pour que Paul Decour meure.
Mais alors là, je ne vous comprends pas. Il aurait été plus facile d'agir sous mon faux nom.
Oh, je vous en prie, nous aurions vite fait le rapprochement, vous le savez bien. Tandis que, en ne vous cachant pas, en agissant au grand jour, vous saviez que vous nous coupiez l'herbe sous le pied, n'est-ce pas ? Je suis malheureusement obligé de vous mettre en état d'arrestation. Maintenant, répondez-moi franchement. Où se trouve le flacon ? Entrez.
Monsieur le commissaire, un petit garçon vous demande. Le petit Philippe Decour, il dit que c'est urgent.
Amenez-le. Entre, Philippe, n'aie pas peur. Qu'est-ce que tu as, Philippe ? Tu veux me dire quelque chose ?
Je viens vous apporter ça. C'est là-dedans qu'il y a le poison. Je l'avais caché dans la cave sous un tas de chiffons. C'est moi qui ai tué papa.
Le journal dont il est question ici et dont nous avons suivi la rédaction depuis les débuts du film fait l'objet, d'après le commissaire, d'un usage de faux, encore une fois. Il a été utilisé pour tromper à la fois Paul et la police. Mais dans cette scène, en l'absence de réponse de Charles, on ne sait si cette hypothèse formulée par le policier est la bonne. Et de ce fait, ses intentions et son stratagème demeurent de plus en plus obscurs. Et deviennent de plus en plus obscurs. L'air de défi qu'affiche l'acteur Michel Duchossois, qui incarne Charles, lorsqu'il écoute le commissaire, est très troublant. Signifie-t-il que le policier se trompe ? A-t-il raison ? Exprime-t-il cet air de défi, la satisfaction d'être bientôt découvert ? Et donc, ce journal est-il vrai ou faux ? Ou est-il vrai, mais a-t-il été utilisé comme un faux, comme un document visant à détourner et à contourner la vérité ? Cette expression renvoie-t-elle, finalement, à la satisfaction du joueur qui continue à jouer le faux ? Ça devient très trouble à ce moment-là. Les véritables motivations de Charles, tout comme la véracité des propos qu'il tient dans son journal, sont très difficiles à cerner et à établir à ce moment précis, avant que le jeune homme Philippe rentre. Avant qu'il ne rentre, en effet, le spectateur, comme le commissaire, ne peut finalement se raccrocher qu'à une seule certitude, celle que c'est selon toute vraisemblance Charles qui a tué. Mais cette certitude est pourtant remise totalement en question dans la seconde partie de la séquence, lorsque Philippe arrive, donc Philippe, le propre fils de Paul, qui vient se dénoncer. Le jeu de faux se prolonge à partir du moment où ce personnage entre dans la pièce et vient signer en quelque sorte le meurtre de son père à la place de Charles. On apprend en effet qu'il fait œuvre un peu de faussaire à ce moment-là, Philippe, puisque à la fin du film, on découvre dans une lettre que Charles adresse à Hélène que c'est bien lui qui a tué, et il innocente ainsi Philippe. Ça, c'est un peu compliqué. Donc, on se dit que lorsqu'il écrit, lorsqu'il se dénonce à la fin, Charles, dans sa dernière lettre, il se dénonce peut-être pour sauver évidemment Philippe, mais aussi peut-être parce que le jeu est allé trop loin. On sent d'ailleurs, lorsque Philippe entre dans la pièce ici, on sent un malaise déjà chez Charles. Et vous avez d'ailleurs ce travelling avant sur son visage au moment où le jeune homme entre, qui montre bien que Michel Duchossois n'est pas très très à l'aise, qu'il y a un problème. En effet, il change totalement d'expression. L'acteur se voûte, ne sourit plus, il n'y a plus cet air de défi. Pardon. Et le personnage, l'acteur aussi, passe au second plan. C'est-à-dire qu'au départ, il est central. On ne voit quasiment que lui. Hein. La plupart des plans sont faits sur l'acteur. Et à partir du moment où Philippe est là, il est de plus en plus occulté, mis au second plan. Donc, il n'est plus vraiment maître du jeu. C'est Philippe, à ce moment, qui prend la main en devenant faussaire, en signant le meurtre commis par un autre. Mais face aux aveux de Charles, à la toute fin, et même s'il paraît sincère dans sa dernière lettre, on peut se demander si, en s'accusant du meurtre, ce personnage ne cherche pas à reprendre la main sur cette immense manipulation qu'il a mise en place et dont on ne connaîtra jamais les tenants et aboutissants. N'est-ce pas pour Charles, en écrivant sa dernière lettre, n'est-ce pas pour Charles une manière de terminer soi-même et selon ses propres règles un jeu macabre auquel il a peut-être finalement pris plus de plaisir qu'il ne le croit ? Comme dans Les Fantômes du Chapelier, ce personnage est pris d'un vertige. C'est à mon sens ce qu'exprime aussi ce fameux travelling sur le visage de Charles dans la scène que je viens de vous montrer. Ce personnage est pris d'un vertige, menacé par un tourbillon, un cercle vicieux qu'il a créé. Si je reprends cette image du cercle et du tourbillon et du vertige, ce n'est pas par hasard. En effet, dans la séquence donc, qui précède celle que je viens de vous montrer, lorsque le commissaire parle pour la première fois avec Charles, la caméra opère un très curieux mouvement circulaire. Partant d'un plan d'ensemble, elle se rapproche des deux personnages en formant une courbe, une sorte de boucle, et se retrouve derrière eux. Et on arrive à la toute fin, en plus, un dernier mouvement de caméra, on resserre sur le journal. Et après, il y aura une coupure dans la mise en scène, on passera à autre chose. Mais on a vraiment un effet de boucle jusqu'à la découverte du journal. Comment ne pas voir dans ce curieux plan l'amorce du vertige que va provoquer la découverte du journal et les nombreuses questions dont il va faire l'objet dans la séquence que je viens de vous montrer, la séquence suivante. Alors je terminerai là-dessus. Il me semble qu'à travers le faux et l'usage de faux, c'est la valeur de l'écrit qui est sans cesse remise en question. L'écriture est à la fois une preuve et un faux, comme dans Landru. Elle est dangereuse parce qu'on lui accorde du crédit. Pourtant, et c'est à mon sens le génie de Chabrol, et ce qui fait qu'il rejoint un auteur comme Georges Simenon, même si les mots peuvent tuer, mener au crime, perturber les personnages, etc., ils ne peuvent traduire ce qui anime profondément les protagonistes. Landru est-il animé uniquement par le besoin d'argent, par le goût du sang, par le jeu, par les trois peut-être ? C'est pas trop, c'est pas très clair et c'est pas très très bien explicité finalement dans le film. Le plaisir que Charles, dans « Que la bête meurt », le plaisir que Charles prend à jouer le faux, n'a-t-il pas supplanté finalement son désir de vengeance et de meurtre ? Les usages de faux et l'écriture qui devient fausse rendent plus complexes les personnages chabroliens se livrant à un jeu dangereux. Ces jeux de mots, ce sont aussi des sortes de jeux de mots, les faux et les usages de faux, révèlent, à travers le décalage entre les mots, entre la lettre et les actions des personnages, l'impossibilité de saisir leurs intentions et motivations. Il me semble que c'est ça que ça révèle, en fait, finalement. La présence de ces lettres anonymes, de ces faux en écriture, il me semble que ça ne fait que montrer de manière plus ostensible, on pourrait dire, cette difficulté à accéder vraiment, dans les films de Chabrol, pas aux sentiments, mais vraiment aux intentions des personnages, à ce qui les anime, à leur motivation. Donc l'écrit, de toute façon suspect, ne fait que déformer les intentions, les motivations et même parfois les sentiments des personnages, il me semble. L'image, elle, il me semble, ne fait que donner un aperçu. C'est ce qui fait qu'à mon sens, les films de Claude Chabrol sont très mystérieux, à la fois, comme tu le disais David tout à l'heure, à la fois très concrets. Ce qu'on voit ici, par exemple, dans l'utilisation de la lettre, de l'usage de faux, c'est très concret. On découpe des petits bouts de papier, etc. Et en même temps, ça ne nous donne absolument pas plus accès aux personnages, à leur intimité, en fait. Et du coup, il y a quelque chose qui confine un petit peu à l'abstrait, il me semble. Et l'usage de faux met vraiment en avant et en valeur ce décalage, justement, entre le très concret et puis ce qui se passe un petit peu ailleurs dans leur tête. Voilà, je m'arrêterai là-dessus. Je vous remercie. J'ai fait...